9h, 11h, Europe 1 Culture Média, Philippe Vondel.
Bonjour Jules.
Bonjour.
Il est en train d'enlever sa veste dans ce studio. Vous êtes dessinateur, vous êtes scénariste. C'est vous notamment qui avez repris Lucky Luke, on en dira un mot. Le grand public vous connaît à cause de votre série animée Silex and the City, tirée de vos albums. C'est une série sur Arte, puis de 50 nuances de grec. Ça avait très très bien marché la saison précédente, au point que la deuxième saison démarre ce soir sur Arte à 20h50. Et sur arte.tv, on peut déjà voir tous les épisodes. Alors les deux séries sont à la fois parodiques et anachroniques. C'est-à-dire qu'elles parlent de l'actualité d'aujourd'hui. Pourquoi être passé de Cro-Magnon au dieu de l'Olympe? Vous vouliez changer pour changer, ou est-ce que ça permet de dire encore plus de choses?
Ça permet de dire des choses différentes. À vrai dire, moi je me souviens, étant petit, il y avait une série qui s'appelait Il était une fois l'homme.
Je me souviens très
C'était
bien.
C'était un dessin animé culte, et puis on traversait l'histoire comme ça, ouais, avec une famille.
Avec un
c'est un
barbu.
Peu la même chose. Donc là, on a un peu progressé dans le temps, mais c'est vrai que en fait, l'antiquité grecque, cet héritage gréco-latin, il y a tout ce qui nous concerne aujourd'hui. Il y a les questions de harcèlement et de viol, les questions de consommation, les questions de faits divers, Eros, Thanatos, quoi. En fait, le sexe et la mort, qu'est-ce qu'il y a de mieux dans notre époque aujourd'hui? Et puis, en fait, en plus, les Grecs, ils ont tout inventé. Pandémie, cataclysme, en fait, en gros, ils ont prévu 2020.
Même pandémie, c'est déjà un mot grec.
C'est
et puis,
ça.
Vous parliez d'Eros, ça fornique dès la première seconde du générique. 50 nuances de grec, donc saison 2, ça démarre ce soir, et ça commence très fort. Le premier épisode s'appelle la Greek Pride. Ça démarre comme ça. On est au sommet de l'Olympe, on est chez le couple Hermès et Aphrodite, ils sont sur leur lit, et Hermès est en train de taper quelque chose sur son ordinateur portable. Extrait.
Hermès, mon chou, tu voudrais pas qu'on se fasse un petit voyage en amoureux? Ça fait une éternité qu'on n'est pas partis en week-end tous les deux. T'as pas fini avec tes messages, là? J'en peux plus, moi, d'un mec qui peut jamais décrocher de ses 40 boîtes mail.
Eh, hey, mais ça va pas? Je suis le dieu des messageries et de la communication. Faut bien que je bosse un peu de temps en temps, quand même.
Oui, enfin, on est tous le dieu ou la déesse d'un truc, hein. Moi, je suis la déesse de la beauté. Je passe pas ma vie à faire des tutos maquillage ou coiffure sur ma chaîne YouTube.
Dis donc, t'es relou ce matin, toi.
Et toi, tu penses qu'à toi et à tes petites sandales et tes petites ailes? La mythologie pourrait s'écrouler? Tu serais encore en train de regarder tes alertes Facebook et Twitter.
J'adore Hermès, dieu des messageries. Alors, c'est drôle, mais ça va plus loin que ça, parce que le couple a un problème. Leur enfant est adolescent, il va pas très bien, c'est pas n'importe qui leur enfant, c'est Hermaphrodite. Il vit tout nu, c'est d'ailleurs le seul qui est tout nu dans la série. Il a un zizi de petit garçon, mais des seins de femme. Pourquoi vous intéressez-vous à lui?
Bah parce que en fait, toutes ces transformations dans le genre, toutes ces questions aujourd'hui qui nous agitent beaucoup, qui nous paraissent très très modernes, qui sont qui déroutent un peu les sociétés à travers le monde, bah les Grecs, ils avaient déjà une vision de ça. Si on regarde les Métamorphoses d'Ovide, ils racontent vraiment la façon dont on change d'une identité à l'autre, cette fluidité-là un peu bizarre, ils l'avaient. Alors c'est marrant de voir ça, c'est-à-dire les gens qui sont choqués, les gens au contraire qui trouvent ça naturel, à travers justement la Greek Pride. Et c'est vrai que l'homosexualité de la Grèce dans la mythologie, etc., était notoire. Il y avait une espèce de... Voilà, les dieux, les héros ne voyaient pas les catégories comme on les voit aujourd'hui.
Mais il y a même cette réplique, je vous interromps, il y a même cette réplique. Il y en a un qui dit à l'autre, ils sont sur des chars de la Greek Pride, et il dit ce qui est génial, c'est qu'on a la mythologie la moins discriminatoire envers toute la communauté LGBT.
Bah oui, parce que c'est Achille, hein, le compagnon d'Ulysse, qui lui avait une petite histoire avec Patrocle, son cousin, et puis qui discute avec le dieu Pan aussi, qui n'avait pas vraiment de problème à draguer à la fois les femmes et les hommes. Donc en fin de compte, bon, de même que les questions de PMA, etc. On peut les traiter à travers la Grèce. C'est la procréation mythologiquement assistée. Bah oui, quand on est dans la cuisse de Jupiter ou quand on sort du crâne de Zeus, c'est vrai que c'est un petit peu bizarre, hein, comme processus.
Alors, il est beaucoup question d'Internet et de Netflix, puisqu'il est question du 21e siècle. Netflix et Greekflix. Il y a un gars qui regarde Greek of Thrones. Alors, il ne se commande pas des pizzas, il se commande des moussaka. Le nom de la box, j'adore, c'est la box de Pandore. Vous êtes bien amusé avec les noms.
Oui, mais en fait, c'est-à-dire que c'est mon principe très souvent, c'est-à-dire on change un seul terme comme ça pour le transposer et tout d'un coup, on se pose des questions sur ce qui nous paraît très très évident. C'est vrai que nous on regarde des séries, c'est vrai qu'on va dans tel ou tel supermarché, mais là les gens ils vont faire les courses au centre commercial Parthénon 2, ils regardent Greekflix.
Même les titres des épisodes, qu'est-ce qu'on a fait au bon Zeus, Catherine et l'Iliade, le plan A3, mais ouais, la ville de Troie.
Ah oui, plan A3, voilà.
Alors il y a quelque chose qui m'a frappé, c'est j'ai retrouvé une interview de vous de 2012 dans laquelle vous disiez je déteste les calembours.
Oui, alors c'est pas des calembours. Vous voyez, parce que non, c'est-à-dire que pour le coup, moi je suis un peu un adepte, j'adore les théories psychanalytiques justement et ce que ça raconte finalement de notre inconscient. Et en fin de compte, de prendre un mot pour un autre, de changer ça, c'est pas seulement du calembour, il faut que ça ait du sens. Le calembour, il y a une dimension un petit peu gratuite, comment vas-tu, yo de poil. Ce truc-là qui est un peu à l'ancienne, moi ça me correspond pas tellement. En revanche, plan A3, si vous voyez, c'est pas exactement un calembour, c'est-à-dire on orthographie différemment le mot, et ça raconte quelque chose justement de cette sexualité débridée qui était sans arrêt en regard de la guerre. Et effectivement, quand on le raconte, il y a un épisode, c'est ça qui est avantageux, parce que c'est adapté de bande dessinée. Donc, il y a deux tomes de 50 nuances de grec. Mais quand on passe côté audiovisuel, en mini-série comme ça, on a des possibilités de parodie, d'utiliser le son, d'utiliser des références audiovisuelles. Et par exemple, Catherine et l'Iliade, c'est la façon dont Alex Lutz et Bruno Sanchez, qui sont venus jouer dans la série, racontent la guerre de Troie en 3 minutes.
Qui sont eux-mêmes, qui incarnent Catherine et l'Iliade, la série qui était sur Canal+. Dans l'épisode 22, Ulysse et Pénélope vont dîner chez les Crétois, en l'occurrence chez Pasiphaé. Et là, c'est un double exercice. Tout est dans Alexandrin. Je dis ça pour ceux qui vont passer le bac cette année. Alexandrin, c'est un verre de 12 pieds, extrait.
Ariane, Phèdre, Hippolyte, où sont les autres garçons?
Thésée est en retard.
Comme d'habitude, d'ailleurs.
Un verre d'huile d'olive?
Un doigt, ça va, merci.
Et toi, ma Pénélope?
Seulement du tzatziki.
Hippolyte est toujours vissé à sa console.
Putain, laisse-le tranquille.
Oh, c'est bon, je rigole. Mais il faut bien avouer qu'il n'est pas très sociable.
Allons, voilà Thésée. On va passer à table.
C'est pas trop difficile, la vie en labyrinthe?
J'ai 8000 mètres carrés, je vais pas déposer plainte.
Mais chier, j'en ai ras-le-bol de votre hypocrisie!
Ça y est, Phèdre pique sa crise.
Qu'est-ce qui te prend, chérie?
Vous voulez apparaître comme la famille parfaite, mais en réalité, c'est la honte de la crête! Ariane se fait larguer dans le genre vieux Kleenex, alors que je suis sa sœur! On me refuse son ex!
Il y a des références.
Ah bah oui, c'est à la fois la tragédie, grande tragédie classique. On a Phèdre, Hippolyte. Il y a un épisode sur Antigone et c'est très marrant d'utiliser un alexandrin pour faire un truc qui est vraiment du théâtre de boulevard.
Et on refuse son ex, j'adore.
Ouais. Et ce qui est marrant, c'est que j'entends ses voix. Et moi, ce que je surkiffe de cette saison 2, c'est le casting de péplum qu'on a en fait avec les comédiens. Parce que là, on entend la voix Ariane, c'est Leïla Slimani. Pasiphaé, c'est Audrey Azoulay qui dirige l'UNESCO aussi, qui était ministre de la Culture. On a entendu Félix Moati, Joséphine Demeaux tout à l'heure. Et ça, c'est vraiment une excitation incroyable pour un dessinateur.
Je rajoute Valérie Lemercier, Guillaume Gallienne, Bruno Solo, Alex Lutz, vous l'avez dit, Stéphane Bern de La Maison, Manoukian, Camélia Jordana, Psatoussi, Alessandra Sublet, Léa Drucker, Sarah Giraudot, Philippe Torreton, Mathieu Noël, Océan, Christophe Barbier, Patrick Peloux, Yannick Jadot. Non, je t'ai plus. Vous les payez ou ils font ça gracieusement?
C'est vertigineux. Alors, ceux qui sont comédiens, on les paye, mais on les paye normalement, comme un comédien débutant. C'est-à-dire que c'est vraiment des gens qui adhèrent au projet, qui trouvent ça marrant, qui connaissent cette écriture et parfois qui me suivent depuis de longues années, parce qu'il y en a qui apparaissaient déjà dans Silex and the City. Mais le principe de faire venir des gens qui ne sont pas comédiens, justement, comme là, par exemple, cette année, Yannick Jadot, il joue en fait, c'est une mise en abîme, parce qu'il joue Nicolas Éol, le ouais. dieu du vent et des énergies renouvelables. Donc, en fait, il joue Hulot, version dieu de l'Olympe.
Et il annonce sa démission, mais vous démissionnez pas, vous restez avec nous. Jules avec nous, le papa de Silex and the City et de 50 nuances de grec dans ce studio. À tout de suite.
9h, 11h, Europe 1 Culture Média. Philippe Vandel.
On est en compagnie de Jules qui signe. J'allais dire Silex and the City, non, 50 nuances de grec, la saison 2 qui démarre ce soir à 20h50. Ce sont des petits films d'animation de 3-4 minutes sur Arte et c'est absolument savoureux. On parlait des voix, vous êtes fait plaisir avec les voix, avec les accents. Dans l'épisode 23, on peut entendre le témoignage des femmes de la mythologie avec les sirènes, comment dire, en cagole.
Il se passe quelque chose dans la mythologie gréco-latine. Grâce à la libération de la parole, les femmes sont en train de mettre fin à la culture du harcèlement et du viol enraciné dans la civilisation classique.
Grâce à quelques nymphes et quelques mortelles courageuses, on a enfin pu mettre des mots sur ce scandale.
Moi, je voulais pas coucher avec Zeus, mais il s'est transformé en puits d'or et il est entré de force dans ma chambre.
Apollon a essayé de me violer et j'étais obligée de me transformer en laurier. Alors au début, j'avais honte, je me disais « Daphné, qu'est-ce que tu vas raconter à tes copines ?»
Il faut que les hommes arrêtent de rejeter la faute sur nous. Genre, elle m'a provoquée, c'est elle qui est venue tourner autour de mon bateau.
Au-delà du fond, vous êtes fait plaisir avec l'accent du Sud, mais ça dit des choses.
Oui, ça dit des choses. À vrai dire, une sirène comme ça qui était sur son rocher, je me suis dit, bah, c'est une fille du bord de mer. Donc j'ai imaginé tout de suite Brigitte Bardot, Alma d'Arc. Et en fin de compte, c'est très rigolo, justement par rapport à la bande dessinée. C'est, on peut énormément jouer à la fois sur les timbres des voix et sur les accents. Par exemple, Échille aussi, qui raconte les Atrides, Agamemnon, toutes ces histoires. Jean-Claude Échille, en l'occurrence, le personnage, lui, il a un accent du Sud-Ouest. Et il raconte un peu comme un chroniqueur judiciaire, il dit « Oh voilà, Antigone, elle a enterré son frère contre la vie de son oncle, c'est ça le drame classique célèbre. » Il dit « Oh ouais, elle adore faire des trous, c'est un vrai chien de truffier cette gamine.
» Vous connaissez les dialogues par cœur. Dans le genre référence, il y a aussi Oedipe qui se fait psychanalyser, qui dit « J'ai parfois envie de coucher avec ma mère et tuer mon père, j'adore. » Et dans quelques épisodes après, il y a le jury, une sorte de nouvelle star qui fait passer des candidats et il y a Oedipe qui chante dans NTM « Nique ta mère » au sens propre.
Oui, voilà, c'est Assassin de Polynice à la place de Assassin de la Police. Donc ça mélange à la fois la culture classique et la culture pop, le rap, les publicités, les jeux vidéo, les séries.
Et les gilets jaunes. Pourquoi vouliez-vous parler des gilets jaunes? J'ai lu une interview de vous qui dit « Je me suis cassé la tête pour savoir comment traiter le sujet ».
Oui, parce que le principe, moi, de mon travail, à la fois Silex and the City et 50 nuances de grec, c'est de faire comme une espèce de saga de notre époque contemporaine, mais vue par le prisme d'une époque antérieure. Et donc là, comment traiter avec la mythologie cette question sociale qui était tellement importante depuis maintenant plusieurs années, puis ça continue encore aujourd'hui. Et donc, je me suis dit « Les gilets jaunes, c'est pas évident ». Et puis tout d'un coup, j'ai pensé à une analogie avec le mythe de la toison d'or et de Jason et les Argonautes. Je me dis, bah oui, c'est les toisons jaunes, le mouvement des toisons jaunes. Alors, ils bloquent les ronds-points à la sortie de Corinthe, ils font chier les dieux et tout, parce que justement, ils en ont ras-le-bol de l'inégalité homme-dieu, parce que les dieux, ils ont des palais en or, ils boivent de l'ambroisie à tous les repas, et eux, ils sont en train ils galèrent pour boucler les fins de mois. Et donc, cette crise sociale-là, sans vraiment prendre parti, mais plutôt en donnant la parole comme un observateur. Moi, mon travail, c'est un petit peu... Moi, je pense que je suis vraiment, en tout cas, ce que je revendique, c'est d'être l'héritier plutôt des moralistes du XVIIIe siècle. Pour moi, mes exemples, c'est La Bruyère, c'est La Fontaine. Ce sont des gens qui, justement, ont dépeint leur époque en... Alors, l'un c'était avec des animaux, l'autre en prenant des typologies, comme ça, des archétypes sociaux, les caractères. Ça me passionne parce que c'est... À la fois, c'est pas vraiment dans le jugement, en même temps, c'est hyper cruel, hyper juste, moi, c'est mes idoles. Donc, en fin de compte, j'essaye de faire, dans une façon un peu marrante, en dessin animé, avec des moyens d'aujourd'hui, ce que pouvait faire, c'est-à-dire dresser un miroir à la société. Donc, les toisons jaunes, c'est vraiment ça.
La Bruyère à La Fontaine, c'est pas rien comme référence. Alors, dans le générique, très modestement, Jules, vous êtes crédité sur une seule ligne, graphisme original. En vrai, vous avez fait quoi ou faites quoi dans la série?
En fait, c'est une série de Jules, d'après la bande dessinée de Jules, écrite par Jules, graphisme original. Voilà, Jules.
Faites...
Donc, c'est complètement mégalo.
Non, mais votre nom apparaît qu'une seule fois. Ah, donc, c'est pour
possible.
Ça. Vous faites quoi en vrai?
Je vais les
vous êtes en studio, vous êtes... comment ça se
oui,
passe?
En fait,
vous
surveillez
tous les dialogues.
Mes albums de BD, ça, première chose. Ensuite, j'écris comme une dramatique, comme un sitcom. Donc, en fait, quand vous regardez les scénarios.
L'auteur.
Voilà, je suis l'auteur, ça pourrait être filmé avec des personnages live.
D'accord.
Ensuite, je crée des personnages, mais on est quand même, c'est un travail d'équipe, on est 150.
J'ai bien compris.
Et ensuite, moi, ce que j'adore faire, et on l'a peut-être entendu justement avec les petits extraits que vous avez passés, c'est diriger, je fais le casting, je propose aux différents comédiens, aux invités et tous les rôles, et je les dirige dans le studio.
Et vous dirigez les voix.
D'une férule quand même de fer. Et en même temps, il y a des gens qui proposent des choses magnifiques. Valérie Lemercier, il n'y a rien à faire. C'est-à-dire, on allume le micro, tout ce qu'elle propose est génial. Et en général, j'aime bien l'enregistrer avant tous les autres personnages parce que c'est elle qui donne le tempo.
Est-ce que la série est diffusée sur Arte côté allemand?
Oui, alors ils ont un doublage allemand qui est très bien fait. C'est pour ça qu'il faut rendre les épisodes très tôt, parce qu'ils passent l'été à faire le doublage allemand.
Parce que les gilets jaunes, ça n'a pas existé en Allemagne. Il y a beaucoup de choses qui sont franco-françaises.
Ça a légèrement existé, mais en tout
cas... L'interview, la démission de Nicolas Hulot sur une radio concurrente, ça n'a pas existé en Allemagne.
Ça, c'est clair. Mais en même temps, c'est-à-dire qu'il y a une plus-value pour les spectateurs français, parce qu'il y a vraiment plein de choses qui les relient à notre actualité. Mais c'est vrai qu'en fait, ces questions d'environnement, imaginez le dieu Éole, qu'on a ras-le-bol, que l'Olympe passe au tout électricité et que Zeus utilise de la foudre diesel. Ça, en fait, les Allemands, ils peuvent très bien comprendre ces problématiques-là, même s'ils n'ont pas le clin d'œil qui fait que bah, c'est les confrères de France Inter qu'on voit dépeints dans la matinale de Grèce Inter. Et Zeus vient
j'avais
répondre
bien
dans
fait
la matinale
attention,
de...
J'avais bien fait attention
Olympe
de ne pas les citer. Merci.
Olympe numéro 1, il y a aussi ça avec Mathieu Noël, évidemment, qui est pour moi une de mes grandes références. Vous parliez d'Oedipe, c'est Mathieu Noël qui fait la voix d'Oedipe depuis le début. C'est lui qui chante, même dans la saison 1, Papa Outé. Bon, évidemment, pour Oedipe, c'est croustillant.
Je reviens à Silex and the City. Je me suis laissé dire que ça allait devenir un film de cinéma. Ça sera de l'animation ou avec de vrais acteurs?
Silex and the City, ça va être un long métrage d'animation avec le même studio qui avait travaillé à l'époque sur Persepolis, le studio qui a fait Avril et le Monde Truqué, qui est le dessin animé de Tardi. Et donc, moi, j'adore. C'est le studio Je suis bien content. Donc, c'est programmatique, hein, carrément. Et on le prévoit pour le sortir pour Cannes 22. Ça met du temps à faire, hein, un dessin animé. Mais donc, on est bien lancé.
Comme on dit, pas ce canne-là, mais l'autre. Et vous êtes également le scénariste de Lucky Luke. Le prochain album, si je suis bien informé, sera le 23 octobre. C'est maintenu avec le Covid, le 23?
Alors, c'est maintenu et probablement, on en reparlera sur cette antenne parce que c'est un peu, ça fait l'effet d'une bombe. Parce que pour la première fois, le thème, c'est Lucky Luke et les Noirs.
Ça va s'appeler Un cow-boy dans le coton. Il y aura des Noirs. Il y en avait des Noirs dans Lucky Luke, mais tout le temps un rôle de passage, un rôle décoratif.
Presque pas, et c'était des petits figurants qui n'avaient pas vraiment de rôle, et puis de toute façon très stéréotypés, d'une façon qui ne serait plus acceptable et compréhensible aujourd'hui. Donc là, il s'agissait de prendre le sujet à bras-le-corps. On sait que c'est de la nitroglycérine. Hein. Il y a des coups à se prendre de chaque côté, mais en même temps, moi j'aime bien ça. C'est-à-dire, voilà pourquoi pas en parler. L'esclavage, ça n'existait pas dans Lucky Luke. Ben, allons-y, on fonce dedans.
Je précise que vous avez écrit le scénario avant avant les émeutes qui ont secoué les États-Unis, avant le décès de George Floyd, le point de départ, c'est un shérif noir qui a réellement existé.
Oui, en fait, c'est un personnage qui en fait, devient l'acolyte de Lucky Luke le temps de cette aventure. Le point de départ, il ne faut pas trop que j'en dévoile, mais Lucky Luke se retrouve propulsé, planteur, esclavagiste par héritage, et il doit se dépêtrer de cette situation-là, et il ne va pas pouvoir le faire tout seul, donc il va avoir besoin de ces grandes figures noires du Far West qui ont existé, et ça, c'était très excitant de se baser sur une base réelle et historique.
Vous disiez que ça peut être une bombe, est-ce que quand on fait un album comme celui-ci, vous avez carte blanche, ou est-ce qu'il faut l'accord des éditeurs, des ayants droit de Lucky Luke ?
Ah, c'est quand même une grande discussion, moi j'ai à la fois une énorme liberté, c'est-à-dire j'ai pu faire ce que je voulais, quand j'ai annoncé le thème, tout le monde s'évanouille un petit peu, j'avais fait, il y a deux albums de ça, j'avais fait Un Cowboy à Paris, c'était Lucky Luke à Paris, et précédemment j'avais fait Lucky Luke et les Juifs. Déjà, quand j'avais annoncé ça à l'éditeur, il avait eu les cheveux qui se dressaient sur la tête en disant « Oh là 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 là, ça va être des emmerdes, pas possible ». En fait, pas du tout, c'était super bien passé. Fort de cette confiance, ils m'ont laissé faire, mais c'est vrai qu'ils ont un regard très attentif, ils connaissent ça par cœur. Donc à la fois, les Belges ayant droit de Maurice, hein, le créateur de Lucky Luke, et la maison d'édition d'Argo, sont quand même vachement présents. Mais je fais ce que je veux, et ça, je suis vraiment reconnaissant.
Vous faites ce que vous voulez, la preuve ce soir, 50 nuances de grec, c'est la deuxième saison qui démarre sur Arte, et peut-être pas la dernière, peut-être qu'il y en aura une troisième. Merci beaucoup Jules d'avoir été avec nous sur Arte 20h50 et Arte.tv, c'est en linéaire quand on veut. Merci d'avoir été ici en direct dans ce studio.